Bienvenue à tous pour cette première séance de retraite pascale prêchée par le père Philippe Play. Alors beaucoup disent, mais qui est ce père Philippe Play? Moi-même, je fais sa découverte. D'abord, je tiens à l'accueillir particulièrement au nom de notre curé, le père Christian Lancré-Javal, qui regrette beaucoup de ne pas être là, qui m'a délégué pour cette mission fort agréable d'ailleurs de vous recevoir et de vous souhaiter la bienvenue. Bien, vous êtes parisien, vous êtes né en 60 et vous avez fait vos études théologiques à Fribourg. Vous avez complété votre formation à l'Angelicum de Rome, université pontificale. Vous avez une licence de théologie biblique et vous avez été ordonné prêtre en 98. C'est pour moi, vous êtes un jeune prêtre. Et ce qui est très attirant chez vous, c'est que vous avez souhaité vous enraciner dans la vie religieuse, la vie contemplative. Vous êtes devenu donc passionniste, tout le monde ne sait pas que ça a été fondé par Père Paul de la Croix au début du XVIIIe siècle, il vous en parlera. Et vous êtes maintenant en charge d'un sanctuaire marial, Notre-Dame du Croc, dans le diocèse de Carcassonne. Alors, si je rappelle, les gens qui ne se rappellent pas trop, c'est dans le Roussillon, dans le bas, tout à fait dans le sud de la France. Et là, vous avez à la fois une vie spirituelle intense, puisque vous menez une vie érémitique, et vous exercez, d'autre part, un ministère de prédication. Et notamment, vous êtes un peu spécialisé dans Saint Jean. Vous nous proposez une lecture très originale de Saint Jean, que vous appelez le livre des sept secrets. Alors, je ne vais pas vous raconter le livre, mais j'ai commencé, et je dois dire qu'il a une écriture très agréable, parce que c'est facile à comprendre. En ce cas, on ne se prend pas la tête, et ça porte à la prière et à la contemplation. Dès le premier chapitre, on est dans le bain, et ça c'est très agréable, je tenais à le dire. Le reste, c'est au Père, bien sûr, de vous dévoiler les secrets de Saint-Jean. Merci Père de nous introduire un peu dans les secrets de Saint-Jean.
Comment entrer dans le mystère divin, justement? C'est toute la vocation et de Jean et la mienne. Petit disciple de Jean, Jean, petit disciple du Seigneur. Comment est-ce que ce livre est né? Il faut le dire en quelques mots, il est né de ma méditation personnelle, de ma fascination pour cet évangile qui est plus théologique que les autres. C'est vrai que Saint Jean, c'est celui qui parmi les 12 et parmi les 4 évangélistes a vécu le plus longtemps. Il est mort presque centenaire. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu rajouter aux 3 évangiles qui existaient déjà, eh bien ajouter quelque chose de plus? Qu'est-ce qui a pu le pousser? Qui a pu le pousser? C'est l'Esprit Saint. Et l'opportunité, la nécessité, vous voyez, il était le dernier témoin oculaire, en quelque sorte, il voyait l'Église qui prenait son envol dans l'histoire. Et il s'est senti appelé vraiment à transmettre un grand secret, le secret du mystère de la foi, c'est-à-dire la manière d'y pénétrer, entrer dans la perspective du mystère divin. Voilà ce que Saint Jean a reçu comme mission, le motif pour lequel il a écrit cet évangile. En même temps, c'est une retraite pascale. La première aujourd'hui est consacrée au cheminement de la foi. Vous voyez, je vais faire un parallèle entre cet itinéraire que Saint Jean nous propose dans sa méditation, dans sa contemplation de la foi, en tant que cheminement, et le cheminement des Hébreux au désert qui correspond traditionnellement au topos, au lieu théologique que l'Église propose, la pérégrination des Hébreux au désert pour comprendre notre propre pérégrination en ce monde, parce que chaque année le temps pascal est une occasion pour intensifier, revoir notre vie et prendre de bonnes décisions pour l'année qui vient. Demain, je consacrerai la méditation au mystère de la Passion lui-même. Et ce sera toujours avec Saint Jean, mais avec la méditation que Jean nous propose sur la Passion à travers le dernier signe. L'idée, qu'est-ce qui s'est apparu, qu'est-ce qui s'est imposé à moi dans cette méditation de l'évangile de Jean au long des années? D'abord, cette illumination, il y avait, vous voyez, dans le choix des 7 signes, dans les 12 premiers chapitres de Jean, il y a 7 miracles. Et Jean précise... le Seigneur a fait tant de miracles, si on voulait tous les raconter, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait. C'est une façon explicite de nous inviter à être attentifs, à être attentif au message qu'il nous propose, et il nous propose de manière symbolique. Il a choisi 7 miracles parmi tous ceux que le Seigneur a accomplis, et il y a un motif. J'ai été frappé, c'est la première chose qui m'a frappé. Quel est le secret ? Quel est le secret que recèle ce choix symbolique de Jean, de 7 signes, pour raconter toute l'histoire publique du Seigneur ? Il raconte l'histoire publique de Jésus comme les autres évangélistes, et en même temps, on retrouve les mêmes thèmes que saint Paul, il réfléchit sur le mystère. Jean, c'est vraiment le théologien, c'est comme ça qu'on l'avait surnommé dans l'Église antique. Ça, c'était la première intuition. Ensuite, il y a un travail de recherche, et puis s'impose une autre, s'est imposée pour moi, une autre intuition, et c'était le fait que le thème de Jean, de son évangile, étant la foi, il y a la gloire de Dieu aussi, mais le thème principal, c'est la foi. Et comment croire, et croire en qui, etc. Il s'agissait, à travers ces 7 signes qui structurent vraiment la vie publique du Seigneur, donc son enseignement, c'est l'occasion pour Jean de donner tout l'enseignement du Christ sur la foi, il s'agissait d'un itinéraire, de l'âme vers Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous livrer aujourd'hui. 7 étapes, quand on les regarde globalement, il y a un appel, c'est Cana, c'est le premier signe. Les gens ne savent même pas que c'est Jésus qui fait le miracle. Et puis il y a tout à la fin, je vais directement au dernier signe, c'est une résurrection, celle de Lazare. Donc vous voyez, on passe, avec la résurrection de Lazare, manifestement à une vie nouvelle, à un état nouveau, à un parachèvement. Et entre les deux, il faut cheminer. 7 étapes pour parvenir à l'état d'amitié avec Dieu. Et voilà un itinéraire qu'il faut bien méditer. Et Jean nous dit, de la part du Seigneur, chaque chrétien, chacun d'entre nous, sommes appelés à parcourir cet itinéraire. C'est pas seulement un itinéraire absolu, réservé à quelques grands maîtres spirituels. Non, c'est l'itinéraire typique, universel, du croyant. C'est sa grande méditation. Saint Jean, c'est à la fois le témoin oculaire et aussi l'homme d'expérience, l'apôtre, qui a pu méditer sa propre foi, son propre cheminement, et il nous donne vraiment son testament, il nous livre le meilleur de lui-même. Cet itinéraire, c'est l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Il est ponctué lui-même, voyez, Jean nous dit... La foi, c'est pas seulement le tout ou rien. On pourrait croire, avec les 3 premiers évangiles, Marc, Matthieu, Luc, que la foi, c'est régi par la loi du tout ou rien. On a la foi ou on n'a pas la foi. On est un pécheur ou on est imparfait. Mais comment mesurer ? Qu'est-ce qui fait qu'on a un jour cette foi qui nous permet de déplacer les montagnes ? Comme dit le Seigneur, si vous aviez... La foi grande comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Ça nous paraît très mystérieux, comment parvenir à entrer dans une telle foi. Saint Jean est beaucoup plus subtil, il va nous montrer que ça se fait petit à petit. Il y a un cheminement pour parvenir à cet ultime aspect, étape de la foi transformante et qui nous transforme et qui transforme les êtres avec lesquels nous sommes en relation. Le signe est significatif. Vous voyez, en grec, le séméion, ça veut dire miracle, c'est un miracle, un phénomène extraordinaire qui déjoue les lois de la nature. Mais Dieu est supérieur à la nature qui sort de ses mains, il peut en faire ce qu'il veut, mais en même temps, ça veut dire signe, c'est-à-dire porteur d'un sens. Un miracle, mais qui porte en lui-même, qui recèle un sens, et un sens qu'il faut décrypter. Vous voyez, chez les autres évangélistes, il y a ce qu'on appelle les paraboles. Jésus parle en parabole. Souvent, les disciples interrogent le Seigneur et lui disent « Pourquoi tu leur parles en parabole et non pas d'une façon ouverte ?» Jésus leur dit, encore d'une manière très parabolique, « Il y a ceux auxquels la manière explicite est réservée. » Pour les autres, c'est en parabole qu'ils entendent l'enseignement sur la foi, l'enseignement sur le royaume. Pourquoi ? Parce qu'il faut une certaine préparation, il faut que la liberté humaine s'ouvre, afin que le mystère lui-même, que la parabole, se découvre. Tant qu'on est tant qu'on n'a pas choisi de partir en quête, comme le pape Benoît XVI l'a dit aux Bernardins, le sens de la vie, c'est la quête de Dieu. C'est ce qui fait que l'homme est noble. Vous voyez, une recherche, une itinérance, mais ordonnée. Eh bien, tant que la liberté humaine ne s'ouvre pas, ne prend pas cette décision de rechercher, de se mettre en marche, tout est parabole. Et les paraboles sont closes. Elles sont en face de nous. Tout le monde peut les lire. Mais les comprendre, c'est autre chose. Saint Jean, eh bien, a bien noté cette pédagogie du Seigneur. Et il l'applique lui-même à son évangile, mais cette fois, il n'y a pas de parabole dans l'évangile de Jean. C'est sous forme symbolique. Il choisit le symbole. Et devant le symbole, eh bien, tout le monde voit le symbole. Mais en même temps, comment pénétrer le symbole? Eh bien, c'est là qu'il faut encore cette ouverture du cœur et de l'intelligence que Dieu seul peut favoriser, que Dieu seul peut réaliser. Les sept signes, c'est sept miracles. Mais comprenez, en tant que porteur de sens, ce n'est pas seulement le miracle, c'est aussi les textes qui sont autour. Donc chaque signe, par exemple, si je prends le premier, ce n'est pas seulement le miracle de Cana, mais ça commence avec la prédication de Jean-Baptiste, et ça s'achève avec, justement, les derniers moments de la prédication de Jean-Baptiste. Et au milieu, il y a eu la purification du temple, il y a eu l'entretien avec Nicodème. Donc vous voyez, le signe est là pour donner, en ramasser le sens, la manière d'ordonner les textes qui sont autour. Les textes qui encadrent le signe vont nous permettre d'approfondir le message que Jean veut nous donner à chacune des sept étapes. Sept étapes de la foi, donc avec les textes qui sont autour des signes. Et en même temps, il y a un mouvement, il y a des pauses dans cet itinéraire. Vous voyez, j'appelle ça des cycles. Le premier, c'est les trois premiers signes forment un cycle. Et au bout du troisième, on peut se reposer. C'est le cycle du croyant. Qu'est-ce que c'est que le cycle du croyant? Il est constitué d'un repas, c'est Cana, les noces de Cana. Ensuite, on a un récit qui nous décrit, c'est une guérison, mais qui... celle du fils de l'officier royal qui va mourir, où le disciple, parce que c'est le croyant là, qui chemine à travers ces sept signes, fait une expérience angoissante, dans la foi, de la manière, c'est une mise en place de la foi. Et c'est assez angoissant, mais de courte durée. Et ensuite, on a un troisième signe, qui est une maladie de longue durée, le paralysé au bord de la piscine. Et ça forme un cycle. À la fin, quand le croyant, nous dit Saint Jean, a parcouru ces trois premiers signes, il est devenu mûr dans la foi. S'ouvre alors un autre cycle, constitué lui-même de trois signes, quatrième, cinquième, ça commence par un repas, vous voyez, de nouveau, la symétrie est parfaite, c'est la multiplication des pains. Mais cette fois, c'est dans la montagne, au désert, que Jésus va accomplir cela. Il va donner une nouvelle nourriture à l'âme. Pour permettre quoi? Pour lui permettre, après une expérience de courte durée angoissante pour les disciples qu'est la marche sur les eaux, de parvenir à la guérison, une guérison d'une maladie de longue durée, c'est la guérison de l'aveugle de naissance. Et dans ce cycle, je l'ai appelé le cycle du disciple, vous voyez, on est passé de croyant, ça suffit pour être sauvé, mais le Seigneur, dans sa surabondance, propose toujours davantage, et c'est vrai que une fois qu'on commence à connaître Dieu, on a toujours envie de cheminer, on devient disciple. C'est une invitation du Seigneur à devenir disciple. Le troisième cycle, il est formé d'un seul signe, le septième. C'est l'état d'amitié avec Dieu. Donc vous voyez, cette merveilleuse invitation, l'itinéraire de foi, ça nous prend là où nous sommes, nous ne connaissons pas Dieu. Et on acquiert la foi. Ensuite, on peut devenir disciple, on peut commencer à cheminer, voire entrer dans la maturité du témoignage en tant que disciple et de cette vocation merveilleuse. Et ensuite, on entre dans l'état d'amitié avec Dieu. Voilà ce qui s'est imposé au fur et à mesure que je méditais cet évangile de Jean au long des années. Et c'est ce que je veux vous livrer maintenant. Les Hébreux au désert... Il a fallu qu'il quitte l'Égypte. Vous voyez, pour quitter l'Égypte, il a fallu que le Seigneur envoie Moïse pour leur parler de lui. Il leur a dit, ce Dieu, le Dieu de nos pères, a un nom, il s'appelle Yahvé, il m'a donné des signes, et il a aussi des exigences, il nous appelle à sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est un monde qui est clos sur lui-même, et le monde, justement, c'est un symbole très johannique, c'est pas les hommes qui composent le monde, je le dis tout de suite, hein, j'insiste. On peut vivre en Égypte sans être un Égyptien. On peut vivre dans une culture qui ignore Dieu, voire qui s'oppose à Dieu, sans être en communion avec cette culture. Mais ce qui fait le propre de l'Égypte, c'est cette espèce d'ambiance, cette espèce d'atmosphère dans laquelle on est baigné. Elle est culturelle, elle est religieuse, c'est un univers de valeurs. Et elle tend toujours à nous éloigner du Seigneur, c'est le monde. Le monde, lui, on le verra, Saint Jean développe beaucoup ce thème, le monde ne vit que pour lui-même, il est clos sur lui-même, et il n'a pas d'ouverture à la transcendance, et même il s'oppose à toute ouverture à la transcendance. Jean a une idée très, c'est vrai, négative du monde, en ce sens-là, mais pas des hommes qui y vivent. Répétons-le, parce que souvent, il y a des erreurs qui se commettent à ce niveau-là. Jean ne nous parle pas, Jean ne dénonce pas, à la suite, comme l'Église, les pécheurs, il dénonce le péché, c'est pas pareil. Et aux pécheurs, il propose la conversion. Nous allons suivre cet itinéraire des Hébreux au désert avec saint Jean. Vous voyez, je vais faire le parallèle sans cesse. Il faut quitter l'Égypte. Alors Cana, c'est l'appel, c'est le premier signe, c'est justement ça, quitter l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe à Cana? Vous voyez, j'ai fait un gros oubli, là j'ai oublié d'apporter ma Bible. C'est de mémoire que je vais vous citer les textes. À Cana, la mère de Jésus était invitée. Et Jésus aussi, dit-on, dit saint Jean. Mais indirectement, c'est Marie qui occupe encore la première place. Ça correspond vraiment à... Ah, merci mon père, voilà. Vous voyez, les prêtres, quand même, là, sont bien équipés, là. C'est bien. Il faut les lunettes, maintenant, pour compléter la chose. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Et comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » C'est elle qui va tout provoquer. Il y a une merveilleuse intuition, saint Jean est extrêmement marial. Et la preuve, c'est qu'il était au pied de la croix, c'est lui qui nous donne vraiment les grands secrets de la Vierge Marie. Là, si vous mettez en parallèle, je ne me rappelle plus, c'est le psaume 145. Dans le psaume 45, c'est un psaume de noces. Et dans ce psaume de noces, en fait, on a un dialogue qui s'instaure entre la fiancée, qui va devenir la reine, qui va épouser le roi. Et un personnage parle, ce n'est pas le roi. Viens ma fille, approche, écoute et tends l'oreille, oublie la maison de ton père, le roi sera séduit par ta beauté, etc., etc. Qui est celle qui parle? C'est pas l'ami de l'époux. L'ami de l'époux, il a été cherché, exactement comme dans les noces de Cana, l'épouse dans sa maison, il est venu avec escorté d'un cortège de vierges, et ce cortège arrive au palais du roi. Et là, il y a cet interlocuteur qui intervient, qui n'est ni le roi, ni l'ami du roi. Qui est-ce? C'est la reine. Comprenez que dans l'Israël ancienne, la reine, ce n'était pas l'épouse. La reine, c'était celle qui, en quelque sorte, avait fait ses preuves, c'était la mère du roi. Et bien là, Marie occupe exactement la même chose, et elle remplit le même rôle royal d'intercession pour l'épouse, qui est l'Église, qui sont donc les invités de la noce, les servants, etc. Ça, c'est l'Église, les disciples de Jésus. Mais c'est qui prend l'initiative? Le roi, c'est bien sûr le Seigneur, le Christ. C'est Marie. Marie est vraiment la reine. Alors vous comprenez quel développement théologique Marie, reine du ciel, Marie, reine de l'Église, on peut faire à partir de là. Et saint Jean a vraiment cette vision-là, une vision théologique de Marie. Ce n'est pas seulement une vision, je dirais, esthétique, anecdotique, c'est une vision très profonde, une synthèse qu'il nous restitue dans ce simple dialogue. Mais relisez le psaume 45 et comparez-le avec les noces de Cana, et vous verrez à quel point Saint Jean est marial et quelle place il accorde à la Vierge Marie. Une autre chose importante ici, c'est la qualité du vin. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a le miracle littéral, matériel, mais Saint Jean nous dit, à travers ces miracles que j'ai sélectionnés, que l'Esprit Saint m'a appris à méditer à moi-même, il y a un sens, et c'est ce sens que je voudrais vous voir découvrir. Quel est le sens? Le cœur. Le vin, c'est ce qui remplit de joie le cœur humain. Ça, tout l'Ancien Testament abonde dans cette direction-là, dès qu'on voit le thème du vin. C'est lié au cœur. Ça répond à quoi, cette ivresse nouvelle? D'un seul coup, là, le vin, là, les 700 litres des jarres qui servaient à la purification des Juifs, cette eau est changée en vin par le Seigneur. Ça signifie, que un grand amour vient d'un seul coup finaliser le cœur humain. Voilà, c'est le don qui est fait, qui est infusé d'en haut, il ne s'invente pas. Et c'est pas un don, vous voyez, de la première alliance, l'alliance avec le Dieu créateur. C'est un don avec la seconde alliance, la rédemption. Jésus, quand il commence à accomplir la rédemption, il va finaliser le cœur de l'homme. Et c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est comme ça que l'itinéraire vraiment commence. Et ça répond, je vous dis, à l'appel des Hébreux en Égypte, à quitter l'Égypte, à voir autre chose, à envisager une autre perspective. Qu'est-ce qui se passe concrètement? D'un seul coup, tout ce qui nous semblait beau et bon en ce monde, vient à s'épuiser, en quelque sorte, comme le vin de la noce, comme un couple qui va mal et qui, après s'être aimé, ça s'use et on ne sait pas comment recoudre les morceaux. Le vin nouveau vient à la fois permettre de redonner du goût et de la saveur à toutes nos expériences, à toutes nos relations humaines et à tout ce qui fait l'existence terrestre, et en même temps, le dépasse. C'est ça qui est important. Vous voyez, notre cœur d'homme, il est fait pour être finalisé. Notre cœur d'homme, quand il n'est pas finalisé, il passe son temps à rebondir, il recherche de droite et de gauche, un grand amour qui finira par le combler, par le remplir. Là, c'est à la fois le cœur est d'un seul coup finalisé, mais pas encore rempli, il y a tout un itinéraire à parcourir. Là, c'est seulement le don qui est fait. Et l'ami de l'époux, s'écrit, mais c'est une merveille. Comment se fait-il, toi, il s'adresse à la mauvaise personne, à l'époux des noces, au lieu du Christ, il lui dit, mais tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant, alors qu'on est déjà ivre. C'est pour nous montrer, le Seigneur veut nous montrer que cet état d'amitié qu'il nous promet est bien meilleur que tout ce que nous pouvons vivre, même de très très bon ici-bas. L'ami de l'époux, quand on regarde les textes qui sont autour, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Voyez, Jean-Baptiste, on retrouve, et ça qui est très beau dans l'évangile de Jean, le même climat au bord du Jourdain où Jean-Baptiste baptise qu'à Cana lors de ses noces. C'est un climat de joie et de ferveur. Voyez, Cana en hébreu, ça veut dire être fervent, avoir du zèle. Qu'est-ce qui donne du zèle, de la ferveur? C'est du cœur. Ça n'empêche pas de commettre des erreurs, être fervent. Mais être fervent, c'est être vivant. C'est avoir vraiment ce vin nouveau qui permet de faire éclater l'outre de notre cœur et de nous ouvrir jusqu'à l'absolu. Saint Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, prêche cela. Il ne peut pas encore le communiquer, mais il l'annonce. Lui sait déjà que ça va venir. Il ne sait pas quand, il ne sait pas encore quel est celui qui va réaliser cela. Et c'est au moment où commence l'évangile de Jean qu'il va pouvoir montrer l'agneau de Dieu. Contrairement aux synoptiques, aux autres évangélistes donc, qu'on peut mettre en synopse, en parallèle, on les appelle synoptiques pour cette raison, lui ne regarde pas Jean-Baptiste comme un prophète de l'Ancien Testament un peu sévère, qui ramène les gens dans la droite ligne, à toi, cesse de voler les autres, contente-toi de ta solde, etc., sois honnête, etc., etc. Lui, il regarde Jean, l'apôtre, l'évangéliste, regarde Jean-Baptiste, le précurseur, comme un mystique. Un contemplatif, un être rayonnant et joyeux. Tandis que dans les autres évangiles, il faut avouer qu'il a l'air un peu triste. Et c'est au bord du Jourdain, auprès des disciples de Jean-Baptiste, que Jésus va choisir ses propres disciples pour commencer son œuvre. C'est là, donc, dans un milieu fervent, vous voyez, en attente. C'était pas un milieu indifférent, c'était un milieu fervent. Donc le cœur qui mérite de recevoir le vin de Cana, c'est un cœur qui est en état de manque, en quelque sorte. Quand on est en état de manque, on a deux possibilités. Enfin, on peut ou bien se replier sur soi-même et devenir dépressif. Ah, je peux rien, et la vie c'est nul, et tout est gris. Ou bien, on peut se dire, il y a forcément dans la vie quelque chose, un dynamisme que je n'ai pas découvert et que je dois savoir accueillir pour aller plus loin. Eh bien voilà, c'est ça la ferveur. C'est ça que le Seigneur veut de nous, eh bien, à chaque temps de carême, renouveler notre ferveur pour partir, pour marcher. Et le meilleur moyen de renouveler la ferveur, c'est de se replonger dans l'Écriture. Et avec saint Jean, c'est tellement facile de renouveler sa ferveur. C'est l'apôtre de la ferveur, c'est l'apôtre de l'absolu, de la lumière. Voilà donc ce premier signe. Ce premier signe est donc le point de départ. On se met à marcher, on quitte l'Égypte, on accepte de suivre le Seigneur, on ne sait pas du tout encore où est-ce qu'il va nous conduire. Et vous voyez, dans cette ferveur, il y a la purification du temple. Le Seigneur remet déjà en ordre, restitue dans l'homme sa capacité d'adoration, qui était perdu. Pourquoi ? Ben parce qu'on cherchait ailleurs, un cœur qui n'est pas finalisé, ben il cherche à travers les êtres et les choses des consolations. Dès qu'il est finalisé, on peut dire que son temple intérieur, eh bien, est nettoyé de quoi ? Du commerce. Le commerce désigne non seulement les choses matérielles qu'on échange, mais ça désigne le commerce humain, les relations mais fermées entre les hommes, vous voyez, qui sont sous la loi du donnant-donnant. Ben, quand tout est relatif, eh bien, on se vend finalement les uns aux autres, on vend nos qualités. Ah tiens, moi j'ai besoin, je ne peux pas vivre tout seul, j'ai besoin de quelqu'un. En échange, ben, je te donnerai ce qui te manque, une sécurité, une force, que sais-je, enfin ce que j'aurai. On est encore dans le commerce, vous voyez, même si c'est juste psychologiquement. Psychologiquement, on est tous créés comme ça, il ne faut pas le renier. Mais spirituellement, ça cesse d'être juste. Spirituellement, on est fait pour la gratuité. Et le vin de Cana, l'ivresse de Cana nous ouvre une perspective complètement nouvelle, eh bien, qui renouvelle ce temple intérieur comme Jésus a renouvelé le temple en chassant les marchands qui y étaient. Il renouvelle notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres parce que cette fois-ci, c'est plus au niveau seulement horizontal, c'est au niveau vertical. Il y a entre nous tous quelqu'un qui nous dépasse et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus des questions d'orgueil, de compétition, c'est plus le donnant-donnant qui domine. Il y a la gratuité qui commence à s'instaurer, la fraternité. Mais il faut une mise en place. Second signe, seconde étape. Eh bien, la mise en place, ça va être le second signe qui se passe toujours à Cana. Donc, vous voyez, ce lieu de ferveur, c'est la guérison du fils de l'officier royal. Alors, il faut... C'est un peu étrange. Relisons rapidement le texte. C'est après l'entretien avec la Samaritaine, qui fait partie du second signe. Alors, deux jours plus tard, Jésus quitta ces lieux et regagna la Galilée. Alors, quand il revient de Galilée, il y avait là un officier royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus arrivait de Jésus en Galilée, il vint le trouver et le priait de descendre guérir son fils qui se mourait. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croirez donc jamais. » L'officier lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole, etc., que le Seigneur avait dite. Et ça se finit bien. C'est la réaction du Christ qui est un peu étrange et qui nous indique eh bien, quelle est la teneur, en quoi consiste cette seconde étape de la foi, juste après l'appel. C'est une remise en place. Vous voyez, c'est une mise en place, une première mise en place de la foi. Qu'est-ce qui se passe ? L'officier royal, en raccourci, est un homme très important. C'est pas n'importe qui, il est habitué à donner des ordres, c'est un notable en Israël. Donc il vient trouver le Seigneur, il ne vient pas avec trop orgueil, hein. Il ne fait pas arrêter, il ne fait pas comparaître devant lui. Non, non, il vient le trouver en personne, il vient le supplier de guérir son fils. Mais Jésus sait qu'il a besoin d'une purification. Sa foi a besoin d'être purifiée. Sur quel point ? Ben, sur le fait qu'il doit apprendre à laisser, à passer derrière le Seigneur, voyez. Là, il lui explique comment il doit opérer le miracle, en fait. Il lui dit, bon, tu viens, tu vas descendre avec moi. Il lui dit gentiment, mais il lui dit quand même, viens, descends, on va guérir mon fils, et puis tu vas guérir mon fils, et ce sera très bien, etc. Ensuite, je donnerai un grand festin en ton honneur, etc., etc. Le Seigneur lui dit, halte là. Et voyez, il le fait d'une façon un peu brutale. Dans notre vie aussi, on a tous expérimenté cette manière, cette petite correction douce, mais qui remet les choses en place. Je vais t'accorder ce que tu me demandes, mais attention, commence à apprendre que le Seigneur, c'est pas simplement un supermarché, un rayonnage, là, dans lequel on prend ce qu'on veut quand on en a besoin. Le Seigneur a des exigences, le Seigneur, c'est le maître que l'on suit, et il faut commencer à apprendre. On apprend ça aux enfants, et bien on apprend ça aux âmes qui commencent à marcher dans cet itinéraire. On a la même chose dans l'itinéraire des Hébreux au désert. Ça correspond aux deux premières années. Vous voyez, les deux premières années après le franchissement de la mer Rouge, eh bien, des Hébreux au désert, c'est là qu'on trouve les plus beaux miracles que le Seigneur a accomplis pour son peuple. À chaque fois, il manque de quelque chose. Il y a une épreuve, comme là, pour l'officier royal, l'épreuve de la maladie de son fils. Donc une angoisse, une expérience angoissante. Il murmure, les Hébreux au désert n'ont pas encore une foi qui est très bien mise en place, justement. Alors il murmure, au lieu de supplier, au lieu de faire comme Moïse. Moïse supplie Dieu, il demande humblement au Seigneur de venir en aide à son peuple. Le peuple, lui, murmure. Des enfants gâtés qui veulent que ça se passe comme ça s'était passé pour sortir de la mer Rouge avec les dix plaies d'Égypte, etc. Et le Seigneur, à chaque fois, ne se fâche jamais. Il les laisse murmurer. Et ensuite, il leur accorde ce qu'ils désirent. C'est l'eau qui sort du rocher quand ils ont soif, c'est l'écaille et la manne lorsqu'ils ont faim, etc., etc. Ce sont les plus beaux épisodes du livre de l'Exode. Et ça dure, ça, les deux premières années de l'Exode des Hébreux au désert. Eh bien, vous voyez comme ça correspond aux deux premiers signes. L'enfance spirituelle, l'enfance dans la foi. Là, le Seigneur corrige, mais toujours doucement, il ne se met pas en colère, en quelque sorte. J'en arrive tout de suite au troisième signe qui va introduire l'âme dans la maturité de la foi. Le troisième signe, c'est le paralysé au bord de la piscine. Et on est au chapitre 5, sauf erreur de ma part. Oui. Le texte semble un peu archaïque de prime abord, vous voyez. De prime abord, on se dit, tiens, c'est étrange, Jean qui est si précis, parce que l'archéologie moderne a retrouvé la piscine aux cinq portiques dont il parle. Donc il est précis historiquement sur les fêtes juives, il est précis, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle d'un seul coup d'un ange qui vient agiter l'eau? Il y avait une piscine à cinq portiques avec plein de malades qui gisaient autour. Et puis le malade raconte à Jésus que de temps à autre, par intermittence, un ange venait agiter l'eau de la piscine et le premier qui se jetait à l'eau était guéri, mais pas les autres. Oh là là. Mais quand Jean nous interpelle comme ça par un récit qui paraît étrange, c'est qu'il faut s'arrêter. Vous voyez, il faut toujours s'arrêter dans la foi, dans la méditation de la parole de Dieu, il faut prendre son temps. Il y a quelque chose à découvrir, bien sûr. Il y a quelque chose à comprendre. D'abord, l'eau de la piscine, c'est la première chose qu'il nous faut détailler un petit peu. L'eau, quand on regarde le symbolisme de l'eau dans la Bible, c'est le symbole, c'est l'univers des valeurs. Les valeurs en général et les valeurs religieuses, celles d'Israël, celles de la Bible. Au contraire, eh bien, par exemple, les eaux du Nil, ce sont les valeurs de l'Égypte. Et souvent, on utilise eh bien, une expression pour... le fleuve de Damas, ou on va dire, où les eaux du Nil peuvent-elles vraiment étancher la soif du peuple? Vous voyez, une phrase parabolique comme ça, symbolique, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'on fait allusion à un univers de valeurs, et pas simplement eh bien, à de l'eau matérielle. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait notre croyant qui est au bord de la piscine? Parce que c'est un croyant, bien sûr il est malade, mais il est au bord de cette piscine qui a cinq portiques. Et les pères de l'Église ont tous interprété les cinq portiques d'une manière unanime. Ça se réfère à l'Écriture. C'est les cinq livres qui constituent le Pentateuque, symboliquement. Mais Dieu est assez fort, vous savez, pour choisir eh bien, des lieux adéquats pour ces miracles et pour que nous en tirions une leçon. Mais c'est confirmé par l'analyse du symbole de l'eau. Vous voyez, on pourrait se dire, bah, c'est peut-être un peu arbitraire ce décryptage des pères de l'Église. Quand on regarde le symbole de l'eau en tant qu'univers de valeur, eh bien, on comprend que l'eau de la piscine, c'est l'Écriture Qu'est-ce qui se passe quand on médite l'écriture? On en a fait tous l'expérience. Bon, bah, y a des moments où on n'est pas en forme spirituellement, bon, bah, on lit le texte, ça ne nous parle pas particulièrement. D'autres fois, au contraire, l'eau de notre esprit, en quelque sorte, est agitée par un ange. Un ange vient nous montrer, on s'enflamme, on comprend quelque chose, on était passé 10 fois devant tel miracle, et aujourd'hui on en comprend la signification, là d'un seul coup, ça y est, l'eau s'agite. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh bien, on a envie de se jeter à l'eau, justement. On aurait envie, eh bien, de mettre en pratique cette parole absolue, je sais pas, sur le jeûne, la consécration à Dieu, que sais-je. Mais voilà, le quotidien, il est fort, le quotidien. Nos limites reprennent leur place et l'eau se calme à nouveau. Et on est au bord de notre piscine et puis ça y est, c'est trop tard maintenant. Il va falloir attendre que de nouveau, eh bien, un autre jour, quand on reprendra la Bible et que de nouveau, eh bien, un ange nous mettra en état de ferveur et nous illuminera pour bien goûter cette eau, eh bien, on se dit, là, je me jetterai à l'eau et mais je serai enfin transformé, je serai guéri. Guéri de quoi? Il s'agit d'un paralysé. Les jambes, dans l'écriture, c'est lié au cœur, parce que les jambes, c'est ce qui permet de marcher. C'est une évidence. C'est ce qui donne un dynamisme, c'est ce qui fait bouger. Ben voilà. Le vin reçu à Cana, c'est comme cette eau qui s'agite en quelque sorte et qui continue d'habiter le cœur et qui de temps en temps s'agite. On voudrait se jeter à l'eau, mettre en pratique. On n'y arrive pas. Et ça dure 38 ans. Et au bout de 38 ans, le Seigneur va intervenir et il va accorder la grâce. Maintenant, il faut s'interroger les 38 ans. Vous voyez, Jean est très précis. Quand on lit l'évangile de Jean, il ne faut pas être approximatif. Il faut questionner vraiment le texte au niveau symbolique. Pourquoi 38? 38, ça ressemble à 40, c'est ce qu'on se dit tous. Ça a sûrement quelque chose à voir avec les 40 ans des Hébreux au désert. C'est vrai. Mais en même temps, 38, c'est pas 40. À quoi ça correspond? En fait, quand on relit attentivement les textes relatifs à l'Exode, et là, il s'agit du Deutéronome, chapitre 2, verset 14, vous trouverez la mention des 38 ans. Là, l'auteur inspiré nous explique, pendant 2 ans, eh bien, les Hébreux ont parcouru le désert, jusqu'à un certain moment, là, une première entrée en Terre Sainte que le Seigneur leur a proposée. On oublie trop fréquemment cette première entrée manquée en Terre Promise. C'est l'épisode des Amalécites, ou des Amoréens, hein, selon les traductions. Là, le Seigneur, et puis ensuite, l'auteur dit, bien, parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur, ils n'ont pas voulu entrer en Terre Promise, eh bien, pendant 38 ans, je les ai fait pérégriner encore au désert jusqu'à ce que tous les membres de cette génération soient morts, parce que je l'ai juré par mon nom, dit le Seigneur, aucun d'entre eux n'entrera dans la terre que j'ai promise à leur père. Voilà nos 38 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que c'est ça, pour comprendre le symbole des 38 ans, il faut revenir donc à cet épisode du désert à l'époque de l'Exode. Le Seigneur, après 2 ans, je vous l'ai dit, avec une grande douceur, il a éduqué Israël sans épargner les épreuves, mais en même temps en leur donnant à chaque fois les grâces dont ils avaient besoin, d'une façon immédiate, dès qu'ils le demandaient, même s'ils le demandaient mal, pour leur apprendre à demander comme il faut, eh bien, il ne s'est jamais fâché. Et là, pour la première fois, il va se fâcher. Il leur propose d'entrer en Terre Sainte, 2 ans seulement après la sortie d'Égypte. On envoie des espions en Terre Promise, ils reviennent avec, évidemment, des échantillons de cette Terre Promise, et ils disent, oh là là, cette terre est vraiment ruisselante de lait et de miel, elle est à l'image de ce que le Seigneur nous avait promis, réellement, c'est une terre grasse, regardez, on a rapporté des fruits, c'est fantastique, Dieu a vraiment bien parlé. Mais ils ajoutent d'un seul coup, leur visage se fige, ils deviennent pâles, mais il y a un problème que Dieu ne nous a pas annoncé. Cette terre est habitée par des géants, par des Anakim. Oh là là, ils sont bien plus haut que nous, ils ont des cuirasses de fer que nos pauvres pieux ne pourront jamais transpercer. Ils vivent dans des cités qui sont de véritables nids d'aigles, des forteresses inexpugnables. Qu'est-ce qu'on va faire contre de tels hommes? Là, vraiment, le Seigneur veut nous faire mourir. De nouveau, le peuple murmure, ils perdent courage. Et là, pour la première fois, Dieu tape du poing sur la table et il dit « ça suffit ». Pour la première fois. Là, Dieu pose une exigence et il dit que là, ça suffit. Après tout ce qu'ils ont vu déjà et reçu au désert comme don, ils n'avaient pas le droit, eh bien, de ne pas faire confiance à Dieu. Transposons pour nous-mêmes, parce que Jean a un enseignement pour nous dans la foi. Ne vous laissez pas impressionner par la culture du monde. Ne vous laissez pas impressionner par une culture qui a mis la science de son côté et qui veut nous laisser croire qu'avec la foi, eh bien, on perd la science. Ne vous laissez pas impressionner par un monde qui construit des tours qui montent jusqu'à près de 1000 mètres d'altitude dans certains cas. On va dans la lune, etc. etc. Et nous, avec notre petite Bible, notre petite foi, quelles armes avons-nous face à ces anakim? Eh bien, le Seigneur nous dit, ayez confiance. Ayez confiance, entrez, là c'est dans le domaine de la foi, affirmez votre foi, cessez, jetez-vous à l'eau, il s'agit de se jeter à l'eau pour le paralyser au bord de la piscine, ayez une foi mûre, n'ayez plus peur de votre foi, ne vous cachez plus. N'ayez plus peur de moi, n'ayez pas honte de moi, car si vous avez honte de moi, eh bien, dit Jésus, j'aurai honte de vous devant les anges et devant mon Père. Et là, effectivement, eh bien, c'est là le péché, si vous voulez. C'est pas le péché positif de notre homme qui est au bord de sa piscine, mais c'est qu'il n'arrive pas à se jeter à l'eau. Donc, c'est quand même son péché. 38 ans, c'est un chiffre symbolique qui signifie qu'il a peur du monde. Il se laisse impressionner, alors pas simplement pour le témoignage extérieur, il se laisse impressionner aussi au niveau des arguments. Il n'arrive pas à être paisible, il n'arrive pas à être dans la sûr de son Dieu, il n'arrive pas à être complètement confiant. Il sait bien qu'il y a une terre promise qui existe, un paradis, un état d'amitié, de l'âme avec Dieu. Il en a entendu parler par les saints eux-mêmes, mais il se dit, c'est pas pour moi. Et puis quelquefois, un ange, eh bien, je vous l'ai dit, lui redonne un peu de ferveur et il comprend que c'est quand même pour lui. Et un jour, le Seigneur vient et lui dit, ça suffit, tu te tais, prends ton brancard et marche. Et voilà, l'homme est guéri. Et c'est comme ça qu'on entre dans la maturité de la foi. On a vaincu les Amalécites. Voilà ce que Jean veut nous dire. Et de fait, c'est le jour du sabbat que le Seigneur fait ce miracle-là et commence la première polémique. C'est surtout dans l'autre cycle que les polémiques, on va les retrouver. Et bien là, c'est les pharisiens me questionnent simplement, mais comment se fait-il que tu portes ton grabat le jour du sabbat? Et il répond, celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton grabat et marche. Hop! Ça veut dire quoi? Certains auteurs disent, est-ce qu'il dénonce son bienfaiteur pour se dédouaner, vous voyez? Non, c'est pas ça. En fait, c'est une question. Il est vraiment dans la maturité de la foi. Qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Il dit, celui qui m'a guéri a une autorité plus grande que la vôtre, et lui a suffisamment d'autorité pour me dire si je peux porter mon grabat le jour du sabbat ou pas. Voilà ce qu'il leur dit. Et ça s'arrête là, les pharisiens n'en demandent pas plus à cet homme. Il est rentré dans la maturité de la foi, il n'a plus peur des Amalécites, ni des pharisiens, ni de quelconque obstacle à la foi. On entre maintenant, donc c'était l'épisode de l'entrée manquée en Terre Sainte, voyez. Donc maintenant, les Hébreux vont devoir parcourir pendant 38 ans pour continuer leur purification spirituelle. On entre dans un nouveau cycle maintenant. Là, pour être sauvé, je vous l'ai dit, ce troisième signe accomplit la maturité suffisante pour nous donner accès au royaume des cieux. C'est quand même magnifique, on n'a quand même pas grand-chose à faire. Accueillir l'évangile, accueillir ses paroles et essayer de les mettre en pratique. Vous voyez, la sainteté chrétienne, c'est pas la perfection comme le croyaient les pharisiens, l'impeccabilité. Tout faire d'une façon impeccable. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est obsédé par l'impeccabilité, elle est impossible humainement. Donc, tout ce qui ne paie pas réalisable, on l'évacue. Et on multiplie eh bien, tous les petits préceptes, réalisables humainement, qui vont nous donner l'impression qu'on est dans l'impeccabilité. C'est le risque permanent. C'était le risque eh bien, du pharisaïsme. Le Seigneur nous dit, mieux vaut... Le Seigneur, en fait, nous fait comprendre, Saint Jean nous fait comprendre de manière magnifique, que la sainteté, ça se vit dans le demi-échec. Mais oui, dans le demi-échec. Attention, la volonté doit être droite, hein, comme celle de l'homme qui se jette à l'eau, une volonté droite, des jambes qui marchent bien. Mais on n'arrivera jamais à l'impeccabilité. La foi, c'est un cheminement. On ne peut pas dire c'est la foi, c'est tel ou tel moment, ce n'est pas forcément la dernière étape. La foi, ça commence dès la première étape. Et si dès la première étape où on se trouve, si on se trouve à Cana, Eh bien, on vit parfaitement dans la communion avec le Seigneur, dans la réciprocité, dans la réponse à ce qu'il nous demande, on est dans la sainteté. Vous m'entendez? Dans la sainteté. C'est magnifique, non? Quelle douceur dans la pédagogie divine, quelle bonté, quelle miséricorde, quelle supériorité par rapport à toutes les voies humaines. Mais il nous propose, dans l'amour, il y a une surabondance, il nous propose maintenant, quand on est arrivé là, dans la maturité de la foi, eh bien de devenir disciple, d'aller plus loin. Devenir disciple. C'est plus seulement avoir la foi, et donc témoigner autour de nous, autour de nos proches quand on nous questionne, et vivre de cette foi, c'est devenir vraiment un apôtre, un diffuseur de la foi, un défenseur de la foi. Voilà ce que c'est qu'être disciple. Et Jean sait de quoi il parle. Il a suivi ce chemin-là. Et ça commence, voyez, les deux cycles, le cycle du croyant qu'on vient de voir et le cycle du disciple, sont strictement parallèles. Ces deux repas qui inaugurent chaque cycle, à Cana, la multiplication des pains ensuite. Ensuite, on a deux expériences de courte durée angoissantes pour le croyant. C'était la guérison du fils de l'officier royal, ce sera la marche sur les eaux. Et on a, en parallélisme parfait, ça s'achève, le cycle, par la guérison d'une maladie de longue durée. Vous voyez, les deux plans, mais on monte d'un cran, quoi, en quelque sorte. On approfondit cette foi. Pour devenir disciple, il faut approfondir sa foi. Il faut savoir vraiment de cette foi, de quoi on parle, de qui on parle. Il faut devenir théologien, en quelque sorte. Et nous allons voir que l'âme va devenir théologien. Le premier miracle, c'est la multiplication des pains. On est au chapitre 6. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dit encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les infirmes. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples, etc. Et après, il va demander à ses disciples, mais comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tant de gens? Ces gens, vous voyez, comme Jésus était fascinant, ont pu l'écouter pendant 3 jours à peu près, sans même penser à manger. Ah, quand même, il faut le faire. Hein. Nous, quand on fait un jour de jeûne le vendredi pendant carême, déjà, ça nous manque. Ah, mais quand Jésus est là, plus rien ne nous manque. C'est une grande réalité, ça. Une magnifique expérience qu'ils ont faite, soit dit en passant. Au premier signe de Cana, c'était le cœur qui était finalisé par un grand amour que Dieu faisait naître en lui. Vraiment, c'est un dépassement du Dieu créateur. Cet amour existait, mais il s'épuisait. L'amour humain s'épuisait, il avait besoin d'un renouvellement en même temps qu'un dépassement. Dieu donne toujours plus que le simple renouvellement. Il donne une perspective qui dépasse encore ce qui existait avant, ce qu'il renouvelle. Eh bien là, il s'agit d'une autre finalisation, l'autre partie de notre être. C'est laquelle? Après le cœur, eh bien c'est l'intelligence. Notre intelligence a besoin d'être finalisée, elle aussi. Vous voyez l'homme moderne, les cultures modernes, du relativisme. Qu'est-ce que c'est que le relativisme? C'est l'absence de finalisation. On ne recherche plus la vérité, on est dans des vérités plurielles, comme Pilate le dira au Seigneur au moment de la Passion. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Pour lui, pour Pilate, il y a des vérités au pluriel, les vérités des gens qui ont une influence, qui ont des exigences, etc. Et chacun a sa vérité, et le monde s'organise autour de toutes ces vérités-là, autour de tous ces réseaux, ayant chacun sa vérité. Et on n'a surtout pas le droit de dire qu'il y a la vérité. C'est le grand procès contemporain qui est fait à l'Église, qui ose prétendre par Benoît XVI qu'il faut partir en quête de la vérité, et qu'elle existe cette vérité, qu'elle peut être fondée même philosophiquement. Et il y a une grande révolte des hommes occidentaux, à ce sujet, parce que ça va tellement à l'encontre de cette culture moderne du monde, dirait Saint Jean. La finalisation de l'esprit de l'homme, voilà ce qui est apporté par la multiplication des pains. Le pain, c'est une nourriture. Vous voyez comment ça procède? Dans la Bible, ça nous parle du mystère de la vie, la nourriture. Une évidence, ben oui, mais le symbole est évident. Il faut savoir regarder les évidences. Vous voyez, retrouver sa fraîcheur d'enfant. Ce qui manque aux adultes, trop souvent, c'est qu'ils ont perdu leur fraîcheur. Ils ne sont plus capables de regarder les grandes évidences de la vie comme source d'émerveillement, d'approfondissement, de mystère. Il ne voit plus de mystère. Et tout est complexe, tout est divisé, et en même temps, les choses simples perdent toute leur valeur, leur profondeur. C'est une grossière erreur. Saint Jean, au contraire, quand on veut lire Saint Jean, quand on veut lire la Bible en général, il faut savoir renouveler notre regard. Il faut savoir regarder les choses les plus évidentes. Et nous serons très étonnés du résultat. C'est le mystère de la vie qui est infusé, en quelque sorte, eh bien, dans l'esprit de l'homme au moment de cette multiplication des pains qui préfigure l'Eucharistie. C'est la seconde espèce eucharistique. La première, c'était le vin de Cana. Eh bien, comment procède la vie? Comment la Bible va nous décrire le mystère de la vie? Décrire une évidence. La vie, tout le monde sait ce que c'est, on l'expérimente, nous sommes des vivants. Mais de là à mettre une définition sur la vie, les philosophes se sont vraiment cassés la tête pour essayer de mettre une définition à ce concept de base. Premier, la vie. Alors, l'autonomie, c'est encore la meilleure définition, un organisme autonome est capable de trouver lui-même sa propre nourriture pour sa propre subsistance et avoir sa propre volonté. Voilà, la vie ce serait ça, mais c'est un peu compliqué déjà. La Bible, elle va beaucoup plus simplement, elle est plus biologiste si j'ose dire. La Bible, elle dit la vie ça procède par multiplication, comme les végétaux, comme les animaux. Multiplier les pains, c'était directement parler du mystère de la vie, et c'était en même temps, multiplier la substance vie et la renouveler dans l'esprit de ses auditeurs, dans l'âme de ses auditeurs, dans l'âme qui marche sur ce chemin-là. Le Seigneur, c'est encore caché, c'est encore à découvrir, on verra que c'est seulement avec le dernier signe, la guérison, des yeux, que va s'opérer vraiment la digestion de cette nourriture. Mais c'est déjà une contemplation du mystère de la vie. Voilà que l'esprit est enfin finalisé par la vie. Le problème de l'homme moderne, c'est qu'il a perdu sa véritable finalité. La finalité ultime, c'est Dieu. Mais Dieu comme source de la vie. Dieu est le seul, nous dit Saint Jean, qui est la vie en lui-même. Nous n'avons la vie que par participation. Or, justement, c'est tout le scandale des hommes qui veulent être Dieu, c'est divin, c'est cette primauté divine qui trouve intolérable. Dieu a la vie en lui-même et la vie était la lumière des hommes, nous dit Jean dans le prologue. La lumière, vous voyez, c'est une catégorie intellectuelle. C'est elle qui va nous permettre de finaliser notre intelligence. C'est en méditant le mystère de la vie que nous allons pouvoir retrouver le chemin du Seigneur à un niveau intellectuel. Voilà, grosso modo, je ne peux pas aller plus loin pour cette multiplication des pains. Ensuite, immédiatement, il n'y a pas de texte qui explique. Il y a tout de suite le cinquième signe, c'est la marche sur les eaux. La marche sur les eaux, c'est en pleine nuit. Et le grand discours à la synagogue de Capharnaüm va commenter les deux signes en même temps. Et c'est le fameux discours sur le pain de vie. Et là, on trouve tous les approfondissements que Jean a semé symboliquement à travers ces deux signes. La marche sur les eaux. Il fait nuit, un fort vent souffle. Jésus a congédié ses disciples, ils sont partis en barque vers Capharnaüm. Il a congédié la foule aussi, qui voulait le faire roi, mais lui n'a pas voulu. Ils étaient immatures, pas encore capables d'être des disciples. Et il n'a pas voulu, il a été prié en solitude, volontairement. Et il laisse volontairement ses disciples vivre une expérience angoissante. La mer déchaînée. Alors la mer, qu'est-ce que c'est? Saint Augustin nous le dit, la mer c'est le siècle. Et elle engloutit tous ceux qui mettent leur confiance en elle. La mer, l'eau c'est l'univers des valeurs. Or la mer c'est le symbole du monde. L'univers des valeurs, mais du monde cette fois-ci, pas de l'Église, pas du Christ. La mer, c'est une eau qui n'est pas féconde, et c'est cependant le lieu où il faut aller pêcher les poissons pour les tirer sur le rivage. Voilà ce que nous dit saint Augustin. Et c'est très beau. Moi, je trouve que vraiment, là, saint Augustin a très bien compris le symbolisme de la mer dans toute la Bible, et chez saint Jean en particulier. Donc, qu'est-ce que fait Jésus quand il vient à ses disciples en marchant sur la mer, en marchant sur les eaux qui sont démontées et déchaînées? Eh bien, sans être englouti, bien sûr. Il montre d'abord qu'il est le créateur. Il y a d'abord cette image de la Genèse. L'esprit soufflait à la surface des eaux, vous savez, au moment de la création du monde, et agitait. C'est l'esprit qui agite les eaux pour empêcher qu'elles ne se ferment sur un immobilisme définitif, en quelque sorte, et pour les féconder. Eh bien, il y a aussi un autre symbole, c'est celui d'un homme, c'est Jésus en l'occurrence, qui domine complètement les valeurs du monde. Vous voyez, le flux et le reflux de la mer, ça évoque, par exemple, ce qu'on voit souvent dans les médias, des affaires qui... On perd le sens avec tout ce que les médias transportent et véhiculent en flux et reflux continuellement d'affaires différentes. Une affaire en efface une autre, et puis c'est un conflit. Vous voyez, le pape parle aux Africains d'un seul coup, paf, en France, on nous parle du pape, mais pour parler d'autre chose qui ne concernait absolument pas le voyage du pape en Afrique. Un épiphénomène de caoutchouc pris comme ça et qu'on a grossi. Vous savez, ça se gonfle, les ballons. Voilà, et puis ce sera remplacé demain par autre chose. Obama va avoir une maîtresse, que sais-je. Et le monde tourne comme ça, il est sans finalité. Il est continuellement agité par des affaires, et puis où il met tout son cœur d'un seul coup, et puis le lendemain, tout son cœur est parti ailleurs, et on a complètement oublié et l'Afrique, et les capotes, et Obama, et tout le monde. Et on pense à quelque chose d'autre. Le monde, c'est ça, et c'est ce qui fait qu'il est infécond. Il n'y a pas de chemin dans les eaux, nous dit le psalmiste. Toi seul, Dieu, a pu te frayer un chemin dans les eaux, en référence au passage de la mer Rouge. Eh bien, c'est pareil. Jésus marche au-dessus des eaux pour donner à ses disciples un exemple. Cessez d'être gouverné par le monde. Je vous donne cette nourriture que je vous ai donnée, va vous permettre de marcher sur les eaux. C'est angoissant pour les disciples. Pourquoi ? Parce que Jésus leur apparaît comme un fantôme. Qu'est-ce que le fantôme ? C'est celui qui a sa place nulle part. Il est entre ciel et terre, mais il n'est ni sur la terre ni au ciel. Il est vraiment coincé entre deux mondes, et les disciples prennent peur. Ils se laissent emporter, je dirais psychologiquement. Ils ont peur de perdre leurs amis, par exemple, d'être incompris, d'être regardés eux-mêmes comme des fantômes, s'ils imitent celui qui marche sur la mer. Et Jésus leur dit, mais non, marcher sur la mer, ça n'est pas cela. Marcher sur la mer, c'est avoir une vision claire et distincte des choses par cette finalisation de l'intelligence qui s'opère. Mais ça nécessite un acte de foi. Ça nécessite de dépasser un moment angoissant. Et si on fait comme Pierre, dans le récit de Matthieu, on regarde les eaux, leur épaisseur, leur profondeur, et puis on a le vertige. Vous voyez, pour les Hébreux, la mer... elle avait une épaisseur. Pour eux, il y avait les abîmes, et c'est là où habitaient les monstres marins, Léviathan, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, Léviathan, les monstres marins, là, ces immenses baleines qui vivent et qui sont l'image des démons. Pour eux, les Hébreux imaginaient vraiment que les enfers se trouvaient dans les abîmes des mers, dans cette obscurité sans fond. Eh bien voilà ce qu'est le monde. À la surface, c'est très agité, mais en dessous, c'est la ténèbre. Et quand on regarde cette ténèbre, on prend peur. Et on est englouti par elle, il y a une espèce de vertige qui nous prend, parce que c'est des abîmes. Le Seigneur nous dit, regardez-moi. Il dira la même chose à ses disciples sur la croix, ne regardez pas le mal en lui-même, regardez-moi. Le mal, je le porte sur la croix, et regardez le mal à travers moi, avec les yeux de l'amour. C'est le grand secret du chrétien face au problème du mal, face au problème de la souffrance, de l'injustice. On le regarde, mais porté par Jésus. Qui le regarde tout seul, en quelque sorte, en prenant sur ses frêles épaules cette croix du monde, regarde le mal en lui-même, est broyé, écrasé, ou en tout cas découragé de le regarder et de lutter contre lui en général. Marcher sur la mer est un moment très angoissant. Mais à un moment, c'est une épreuve de la foi pour devenir un véritable disciple. Alors la digestion s'opère au signe suivant, au moment de la guérison de l'aveugle de naissance. On arrive là, ça va être le chapitre 9, sauf erreur. Je vais très vite, mais vous, vous avez le temps de reprendre l'évangile de Jean et de le reparcourir, évidemment, tout doucement. Voilà, Jésus vit un homme en passant, aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. » Cet aveuglement, la de naissance, il nous fait tout de suite penser intuitivement à quelque chose qui est d'ordre originel. Vous voyez, une faute originelle qui nous a aveuglés, qui a une blessure, à la fois au niveau du cœur, mais au niveau de l'intelligence, qui fait que notre intelligence n'est plus directement finalisée, et nous devons travailler à la sueur de notre front, comme a dit le Seigneur à Adam pour le punir de son péché, au début de l'histoire des hommes. Eh bien oui, c'est à la sueur de ton front maintenant que tu vas retrouver le chemin de la finalisation. Alors comment le récit du miracle, il est très rapide. Jésus fait de la boue, le potier, le créateur, il fait de la boue, il va réparer en quelque sorte, vous voyez, il va mettre une rustine réparée là dans cet Adam qu'il avait forgé au début des temps. Ce qui va mal, c'est sur les yeux. Il met de la boue et il lui dit « va te laver ». Il en profite évidemment pour disparaître. Et il va laisser l'homme tout seul. C'est très intéressant la pédagogie divine. Il ne faut pas s'inquiéter quand le Seigneur, nous faisant un don, nous laisse ensuite tout seul. C'est normal, il ne nous quitte pas des yeux, lui, mais il veut que nous apprenions à marcher un peu avec nos propres jambes et à voir avec nos propres yeux. Il va se laver à la piscine de Siloé. Siloé, c'est la piscine de l'envoyé, ça évoque Jean-Baptiste, de nouveau, c'est-à-dire, vous voyez, il faut revenir au message de Jean, il faut de pénitence, de remettre les choses en place dans sa vie. Et bien, il y voyait clair en revenant, mais ses yeux ne vont pas s'ouvrir sur la lumière directement. Paradoxalement, eh bien, c'est sur les ténèbres que ses yeux vont s'ouvrir. Les ténèbres du refus, les ténèbres de l'obstination, celles des pharisiens. Ce n'est pas sur Jésus que ses yeux vont s'ouvrir d'abord. Et le Seigneur permet cela. Ce n'est pas scandaleux, c'est pour l'éduquer à être un disciple. Rappelez-vous, il doit témoigner maintenant. Alors d'abord, c'est les voisins. Les voisins posent des questions neutres. Tout le monde est un aveugle de naissance. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri un aveugle de naissance, dira l'ex-aveugle lui-même. Ça n'est jamais arrivé. C'est le miracle des miracles, sauf la résurrection, qui suivra juste après. Donc vraiment, les gens sont étonnés, ont un peu de mal à croire que c'était lui. Il était mendiant, vous voyez, il était tombé à cause de sa maladie, il ne pouvait rien faire, il était au plus bas de la société, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de parents, il avait des parents, et effectivement, même les parents le reconnaissent, bien sûr, mais se réjouissent. Mais quelque chose tout de suite obscurcit cette bonne nouvelle, ce sont les pharisiens. Les pharisiens arrivent toujours avec leur mauvaise humeur, et puis avec leur mauvais dessein ensuite. Mauvaise humeur, c'est le premier interrogatoire, mais est-ce que c'est bien toi, etc. Et alors, vous voyez, il y a une mise en place, le propre, vous voyez, du mensonge humain en général, là c'est religieux, mais c'est vrai du mensonge humain en général, par rapport à la vérité. C'est toujours d'avoir de bonnes apparences. Alors là, les pharisiens vont faire toute une mise en scène d'une sorte on va enquêter sur les faits, en quelque sorte, une mise en place des faits, une vérification des faits. Très minutieuse, apparemment. Alors, on convoque les parents. Est-ce que c'est bien votre fils, etc. Et toi? Enfin, vous voyez, une belle apparence d'enquête. Mais tout de suite, Saint Jean mentionne, mais attention, les parents ne dirent rien à la place de leur fils, parce que tous ceux qui diraient que le Christ est Seigneur, eh bien, seraient exclus de la synagogue. Voilà. Alors c'est bien beau d'avoir de belles apparences, mais la vérité n'est pas recherchée. C'est là tout le problème. On a mis des bornes à la vérité une fois pour toutes, et on n'accepte pas que Dieu élargisse l'horizon. Cet homme, eh bien, va témoigner en plusieurs étapes de son bienfaiteur, de ce qu'il a fait. D'abord, il parle de la guérison, mais... Et puis, vous voyez, dans le dialogue, je ne le lis pas, j'ai pas le temps... Mais ça va s'échauffer progressivement. Et progressivement, lui, qui était vraiment au plus bas de la société, un homme sans culture, mais son esprit, là, est vraiment ouvert, ses yeux se sont vraiment ouverts, il va devenir un véritable théologien, il va leur donner des leçons de théologie. Et pour la première fois dans l'Évangile, les pharisiens vont se mettre en colère, non plus en polémiquant contre Jésus, mais en polémiquant contre un de ses disciples. C'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire qu'on a là, on est en présence d'un homme qui, dont la force du témoignage est telle qu'il est capable de mettre en boule les pharisiens. C'est un très bon signe de mettre en boule les pharisiens. Vous voyez, de remuer, d'agiter les démons, dirais-je. Et finalement, il arrive à dire que c'est un bienfaiteur, un prophète, un envoyé tout à fait spécial de Dieu, comme jamais il n'y en a eu. Il est à la porte de faire sa confession dans la divinité du Christ, et c'est ce qu'il fait une fois qu'il est jeté dehors par les pharisiens qui ne veulent plus l'entendre. Eh bien, là, le Christ, la lumière, apparaît devant lui et il confesse la divinité de Jésus, il se prosterne devant lui. Là, ça y est, le disciple est entré dans la maturité de son témoignage. Il commence à subir vraiment le sort du disciple. Donc, vous voyez, par rapport à l'itinéraire des Hébreux au désert, ce second cycle, qui est celui du disciple, correspond, à le don de la loi au Sinaï, qui correspondrait, vous voyez, à la multiplication des pains. Mais tout de suite, mais là encore, les Hébreux étaient immatures. Et on a l'épisode du veau d'or. Et Moïse doit briser les tables de la loi, se mettre en colère, et puis remonter dans la montagne pour de nouveau consigner sur les pierres les commandements divins. Ensuite, dans la marche sur les eaux, on peut le comparer au serpent brûlant. Vous voyez, les serpents brûlants au désert qui mordent les Hébreux, et il faut regarder le serpent de bronze que Moïse a forgé pour être guéri. Qu'est-ce que c'est que ces serpents? C'est des symboles de sagesse, le serpent. Et s'ils sont venimeux, c'est le symbole de valeurs qui font mourir spirituellement. Donc il faut regarder le Christ en croix. C'était le dialogue avec Nicodème. Jésus disait que le Fils de l'homme serait élevé au-dessus de terre, comme le serpent fut élevé au désert par Moïse. Oui, le Seigneur a mis la sagesse des hommes sur la croix, et en mettant sur la croix, il a proposé une autre sagesse. Il faut le contempler la sagesse de son enseignement pour se guérir de tous les venins, des morsures de serpent qu'on peut avoir dans le monde tous les jours, quand on est un peu faible, quand on se laisse un peu aller, qu'on a été moins fervent dans la prière. Et le sixième signe, l'ouverture des yeux, ça correspondrait bien, à l'entrée en Terre Sainte, à Josué. Vous voyez, Josué, le disciple parfait, disciple de Moïse. Eh bien, voilà, le sixième signe, c'est cela. Concluons, la foi, c'est pas une expérience magique, un tout ou rien, une illumination qui se fait d'un seul coup et qui accomplit entièrement ce qu'elle doit accomplir pour faire passer un homme de l'état d'incroyance à l'état de foi. C'est un cheminement, c'est un itinéraire de l'âme vers Dieu, comme celui des Hébreux au désert. C'est pourquoi l'Église insiste beaucoup sur le cheminement des Hébreux au désert. Quelle est la perspective de ce cheminement? C'est pas encore d'être un disciple mûr. C'est l'état d'amitié avec Dieu dont je vous parlerai demain. C'est le septième signe de l'itinéraire que Jean nous dresse. Là, c'est une résurrection, celle de Lazare. Et l'épisode qui commente vraiment profondément le signe lui-même, c'est l'onction de Béthanie, le récit qui suit, où on voit Marie, le croyant, donner tout son cœur au Seigneur, lui donner toute sa place. On voit Lazare qui va devenir l'ami parfait, qui va donner le témoignage parfait. Vous voyez cet homme-là, l'aveugle de naissance, s'est fait jeter hors de la synagogue. À peine avait-il été restauré par le Christ dans sa dignité de citoyen juif. Il avait de nouveau droit d'être considéré comme les autres, à l'égal des autres. Il accepte de perdre ce petit avantage pour son bienfaiteur, pour le Christ qu'il avait guéri. Mais Lazare va aller plus loin. Comment ça se passe? On verra demain que les Juifs décidèrent de mettre à mort Lazare, parce que Lazare faisait autant de conversions que Jésus lui-même. Vous vous rendez compte? Sans être un disciple direct, Lazare est l'ami de Jésus, mais il n'est pas un disciple direct du Christ. Lazare faisait autant de conversions que le Christ lui-même, parce que il avait totalement accueilli Jésus dans son âme, dans son cœur, dans son intelligence. Il rayonnait de la lumière de Dieu, Dieu pouvait se servir de lui complètement. Et il subit, enfin il ne va pas le subir, le Christ a protégé tous les siens, mais les grands prêtres voulaient le mettre à mort comme le Christ. Son témoignage est désormais parfait, et son union au Christ est parfaite. Cet état d'amitié, c'est un état d'amour que nous avons bien du mal à imaginer, parce que nous imaginons tout en termes d'impeccabilité, là encore. L'amour, c'est bien au-dessus de l'impeccabilité. L'amour, c'est l'onction de Béthanie qui nous l'apprend. Et c'est vers cet état d'amitié. Nous avons la chance, eh bien, de rentrer dans l'intimité divine. C'est ça l'état d'amitié. Le disciple est encore, connaît son maître, connaît Dieu, mais il ne partage pas encore l'intimité divine. Eh bien, nous verrons que le Seigneur, en surabondance, nous propose encore et enfin cela. Dès cette vie, avant même d'arriver au paradis terrestre, eh bien, il nous propose de devenir ses amis.